tensions entre les membres du gouvernement. La réunion sur l'attribution des secteurs n'est toujours pas terminée. Elle devrait reprendre cet après-midi. La province sud revoit les attributions des bourses scolaires après avoir resserré les procédures de dérogation scolaire. Le ministre et le parti travailliste contestent ces décisions. Au Proche-Orient, le cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza. Le Hamas a libéré les trois premiers otages, trois femmes de 24, 28 et 31 ans. Et puis Donald Trump, bientôt investi président des États-Unis, va très vite prendre les premières décisions. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui se poursuivra par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Oui, bonjour Jean-François.
On parlera évidemment de l'actualité du foot mais aussi du rugby avec un très bon bilan pour les clubs français engagés en Champions Cup.
Oui, 6 clubs du top 14 encore dans l'aventure, dont 5 qui auront le privilège de recevoir leurs adversaires. L'UBB, La Rochelle, Toulon, Toulouse, Castres et Clermont, seule équipe qui devra se déplacer. Les choses sérieuses vont commencer alors que la guerre tant redoutée contre les franchises sud-africaines n'a pas eu lieu. Aucune équipe du pays des Springboks n'a passé le cap.
Le tennis avec l'Open d'Australie et le dernier Français en lice, Gaël Monfils.
Oui, l'air du Pacifique qui offre une seconde jeunesse à la Monf. Il jouera cet après-midi à 38 ans les huitièmes de finale à Melbourne après son titre en début d'année à Auckland. Il affrontera l'Américain Ben Shelton, 21e mondial. Hier, Hugo Humbert n'a rien pu faire face à l'Allemand Alexander Zverev, une défaite du tricolore en 4-7.
Dans l'actualité sportive calédonienne, nous parlerons athlétisme avec nos deux invités.
Oui, le bilan de la saison 2024, les perspectives pour 2025, de jeunes talents qui brillent sur la scène nationale. On mise de grands espoirs sur une nouvelle génération pleine d'ambition et qui pourrait inspirer toute la jeunesse à renouer avec les grandes heures de l'athlétisme calédonien. Nous en parlerons avec Paul Poignet-Wa, le président de la Ligue calédonienne, en compagnie du cadre technique Eric Riard.
Et à propos des grandes heures de l'athlétisme calédonien, nous évoquerons aussi la disparition de Martial Bonne qui s'est éteint cette nuit pour nous. Ce devait être une formalité, mais apparemment ça coince. Depuis 10 heures, les membres du gouvernement ont été réunis pour l'attribution des secteurs dont chacun aura la charge dans l'exécutif. Mais la réunion à 7 heures n'est pas allée à son terme, Nicolas Legrand.
Oui, la séance est suspendue. Les 11 membres de l'exécutif ont quitté la salle des délibérations vers 11 heures sans avoir procédé au vote concernant l'attribution des secteurs dont ils auront la charge au sein du 18e gouvernement. Il resterait en fait quelques ajustements à faire. Alcide Ponga, le président, ne souhaite pas dévoiler ce qui coince. Il estime que ces débats doivent se faire sereinement. Mais d'après nos informations, la fuite d'un document de travail sur les réseaux sociaux, notamment, aurait provoqué ce blocage ce matin. On se souvient que Jérémy Catidjomonier, le membre calédonien Ensemble du gouvernement, avait publié un communiqué pour critiquer cette répartition des secteurs. Alcide Ponga, le président du 18e gouvernement, espère quant à lui que les derniers arbitrages se feront rapidement pour que le gouvernement se mette en ordre de marche.
L'ensemble des membres du gouvernement ont demandé une suspension de séance pour que les discussions puissent continuer, puis je pense peaufiner. Pour ma part, ça fait une semaine et demie, je crois que je mène les discussions avec les groupes, les uns et les autres. Donc vendredi, avec certains, nous avons décidé de convoquer cette réunion aujourd'hui pour pouvoir mettre un pied devant l'autre. Et j'ose espérer que ce soir ou demain, on mettra l'autre pied et puis qu'on puisse démarrer. Donc c'est plutôt une suspension de séance pour permettre d'autres petites discussions et d'autres ajustements qui arriveront certainement dans la journée parce que les Calédoniens attendent à ce que le gouvernement se mette au travail et c'est ce que j'avais annoncé ici lors de ma nomination et c'est ce que je porte aussi et c'est ce que je défends auprès de mes collègues. Le travail doit être fait de façon très très sereine, posée, on doit se dire les choses et dès que tout est calé, on avance.
La séance du gouvernement est donc suspendue. Ses membres seront donc de nouveau convoqués cet après-midi pour tenter de voter la répartition des secteurs.
Les difficultés budgétaires obligent la province sud à revoir à la baisse un certain nombre de dispositifs. On se souvient bien sûr de l'aide médicale gratuite. Et ce matin, la province a communiqué sur les nouvelles attributions de bourses scolaires. Charlotte Coulson.
Une conséquence directe des émeutes de mi-2024, puisque les recettes fiscales ont diminué après la destruction de près de 700 entreprises et le départ de nombreux consommateurs. 8 milliards d'économies à répartir dans différents secteurs d'action de la province. Cela se répercute forcément sur l'éducation. Environ 1 milliard de francs est consacré aux bourses scolaires, primaires, secondaires et supérieures. Et c'est une économie de 30% qui est visée par la province sud. Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province, a annoncé donc ce matin plusieurs diminutions des prestations de la collectivité. En premier lieu, la baisse de participation de la province dans l'aide à la cantine. C'est une baisse de 100 francs par repas d'enfants boursiers qui reviendra donc à la charge des parents. Autre mesure, l'allocation de rentrée est supprimée, de même que l'aide au transport scolaire. Au total, ce sont donc 330 millions que la province espère économiser en diminuant ou supprimant ses aides aux boursiers, qui toucheraient environ 10 000 élèves. À noter également que l'an dernier, déjà, les conditions d'attribution de la bourse scolaire avaient été modifiées. De 6 mois de résidence nécessaire en province sud, seules les personnes résidant depuis 10 ans au moins peuvent maintenant toucher la bourse, ce qui impacterait environ 10% des demandes cette année. En direct de la province sud, Charlotte Coulson, RRB.
Et ces décisions concernant ces dispositifs prises par la province sud étaient au cœur ce matin d'une conférence de presse au cœur du quartier Riverstar à la rivière Salée. Conférence de presse de la présidente de l'AMNIS, le mouvement national indépendantiste et souverainiste, Mouneiko Aouchas, Lionel Sabot.
Oui, au cœur de cette conférence de presse, vous le disiez, les problématiques liées à l'aide médicale gratuite, mais aussi, il y a quelques semaines, de la rentrée scolaire, autour des problématiques liées aux attributions des bourses en province sud et liées au dossier des inscriptions scolaires et pour lesquelles le MNIS a saisi la justice. Écoutez Mouneiko Aouchas, la présidente du MNIS.
Sur le refus de bourse, il y a 6 dossiers, 6 requêtes ont été déposées. Sur les 6 requêtes, elle a reculé sur 3, donc elle les a réattribuées leur bourse, parce qu'aujourd'hui, sur des renouvellements de bourse, on ne peut pas leur faire une demande de 10 ans de résidence, une raison de non-attribution d'une bourse en province sud. Pour les refus d'inscription en province sud, aujourd'hui, il y a des refus. Hein. Contrairement à ce qui a été annoncé, il y a des refus d'inscription et les requêtes des référés en suspension seront déposées courant de cette semaine. Forfaiture de la part de la province sud, elle sort effectivement de son champ de compétences. Il y a un contrôle de légalité ici encore qui est le OCER qui va dire si un document est légal ou non pour pouvoir être pris ou pas en compte par la population, par les institutions. Une attestation de résidence, pourquoi ne serait-elle pas recevable en province sud alors qu'elle est à Paris et à Cayenne?
Et j'ajoute que le MNIS appelle les familles qui pourraient rencontrer des difficultés sur ces thématiques à se faire connaître afin que les dossiers soient portés devant la justice, notamment la justice administrative.
Et toujours à propos de ces problématiques d'inscription dans les écoles de la province sud, le Parti travailliste a publié ce matin un communiqué dans lequel il dénonce, je cite, les agissements inacceptables de la présidente de la province sud et appelle, je cite toujours, les parents citoyens calédoniens à s'élever afin de stopper rapidement ces dérives sectaires et séparatistes. Si Mme Baquès voulait redémarrer les événements difficiles que le pays a vécu depuis le 13 mai, elle ne s'y prendrait pas autrement, écrit même Marie-Pierre Goyetch, la présidente du Parti travailliste, qui signe donc ce communiqué. Il est 11h38, une pause dans ce journal. Dans un instant, on verra ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde, et notamment la libération des 3 premiers otages israéliens par le Hamas.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Vous cherchez une expérience unique à Nouméa ? Découvrez l'Entrecôte au 360. Un restaurant panoramique avec une vue imprenable sur le lagon et la ville. Ouvert les vendredis, samedis et dimanches pour le déjeuner. Et à partir de 17h les vendredis et samedis, réservé au 23 90 90.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Chaque mardi à midi, sur RRB, retrouvez votre magazine citoyen parrainé par la province sud. Un rendez-vous consacré aux questions et aux faits de société. Citoyen, c'est le magazine qui participe à la vie et à la construction de la Nouvelle-Calédonie. Tous les mardis à midi, retrouvez votre magazine citoyen.
La province sud, agir pour l'avenir.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'actualité à l'étranger et avec 3 heures de retard, le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est entré en vigueur à Gaza. Si les termes sont respectés par les deux parties, il devrait durer 42 jours au cours desquels le mouvement terroriste libérera au compte-gouttes 33 otages. Alors qu'Israël va faire sortir de prison plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, quelques heures après que les armes se soient tues, le Hamas a libéré les 3 premiers otages, 3 jeunes femmes de 24, 28 et 31 ans, Frédéric Simon pour Europe 1.
Elles sont arrivées en début de soirée à l'hôpital Sheba de Tel HaShomer, c'est pas très loin de Tel Aviv. Elles devront y subir une série d'examens médicaux poussés et elles y seront prises en charge par des équipes de médecins et de psychologues spécialement formés. Et les tout premiers contrôles médicaux sont satisfaisants, assez en tout cas pour permettre aux anciennes captives de profiter des retrouvailles avec les membres de leur famille et leurs amis proches. Après plus de 15 mois de détention, des images de ces retrouvailles ont été diffusées dans les médias en Israël et elles ont été chaque Israélien, les 3 anciennes otages y apparaissent détendue, souriante et très émue, bien évidemment. Mais c'est une longue période de soins et de réhabilitation, tant physique que psychologique, qui attend Romy, Doron et Émilie. Quoi qu'il en soit, cette toute première phase de l'accord portant sur l'instauration d'une trêve des combats dans la bande de Gaza et sur la libération d'une partie des otages, c'est bien passé. Rappelons qu'au cours de cette période de 42 jours de cessation des combats, 30 otages supplémentaires devront être libérés en plusieurs étapes. Prochaine libération prévue ce samedi.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi la très attendue cérémonie d'investiture du nouveau président des États-Unis, le 47e. Donald Trump, 4 ans après avoir été chassé de la Maison-Blanche, prêtera à nouveau serment au cours d'une cérémonie qui aura lieu à l'intérieur du Capitole et non à l'extérieur, comme c'est habituellement le cas. Décision prise officiellement en raison des températures très basses actuellement sur la capitale américaine. Quelques heures avant cette investiture, qui aura donc lieu la nuit prochaine pour nous, le nouveau président a organisé un grand meeting à Washington, le meeting de la victoire, comme il l'a appelé. Ses soutiens ont attendu plusieurs heures pour pouvoir y participer.
On est là depuis 7 heures du matin. On est tous là pour montrer que oui, nous sommes la majorité aux États-Unis et qu'on a voté pour Donald Trump. Et que cette fois, il est enfin de retour à la Maison-Blanche.
Pour moi, c'est l'événement le plus historique auquel je vais assister de ma vie. On est là pour soutenir le président Trump et tout ce pour quoi il se bat. C'est un président et un homme proche du peuple américain. Il veut faire prospérer ce pays et le rendre plus sûr.
Demain, Donald Trump, 47e président des États-Unis, sera donc en fonction. Il a donné déjà le ton de son mandat et il a en quelque sorte pris le pouvoir à Joe Biden avant même d'avoir prêté serment. C'est l'une des conséquences de la victoire par chaos de Donald Trump qui veut aller vite, nous a dit Gaël Lagadec, professeur des universités et spécialiste des États-Unis, qui était ce matin notre invité.
C'est quelque chose d'atypique parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul président à la fois. Alors on dit, dans ce genre de situation, quand le président ne se représente pas, entre l'élection de son successeur et sa fin de mandat, on dit aux États-Unis que c'est un canard boiteux, qu'il n'a plus toutes ses fonctions, mais il est quand même toujours à la tête du pays, il est visible, il représente les États-Unis, et là, ça n'a pas été le cas, il a été effacé par Donald Trump, qui a pris déjà le pouvoir, ne serait-ce que par ses annonces, en fait. Ses annonces deviennent des faits politiques. Si on prend au niveau interne, c'est principalement une lutte féroce contre l'immigration illégale. Il y a aussi des engagements qu'il a pris, qu'il veut mettre en œuvre apparemment très vite, concernant les droits des personnes transgenres, qu'il veut exclure de l'armée et des écoles publiques. Il y a de façon très marquante la libération des otages à Gaza, le cessez-le-feu, puis la libération des otages. Et tout cela, ça s'est fait évidemment sous son impulsion.
Donald Trump dispose de la majorité dans les deux chambres, au Congrès et à la Chambre haute. Dès le premier jour, il pourrait d'ailleurs signer une centaine de décrets présidentiels pour affirmer la rupture avec la politique de Joe Biden. Et il devrait aussi s'atteler au dossier de la guerre en Ukraine.
Il a dit d'abord pendant la campagne que il le ferait en 24 heures. Bon, il a dit maintenant que c'est un peu plus compliqué, que ça prendrait 6 mois finalement. Mais il est toujours dans cette optique-là, avec toutes les cartes dans les mains, puisque il suffit qu'il dise qu'il ne veut plus que les armes américaines frappent la Russie en profondeur, les Ukrainiens n'oseront pas le faire. Et du coup, ils vont se retrouver de plus en plus sur le reculoir par rapport à l'armée russe. Et la crainte pour l'Ukraine, c'est que leur soit imposée une paix par les États-Unis et qu'à défaut de cela, ce soit une défaite faute de maintien du soutien américain.
Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon, même si c'est un raccourci, que c'est une bonne nouvelle pour le Kremlin que Trump arrive à la Maison-Blanche ?
Le Kremlin ne dit pas ça, évidemment. Ils disent qu'ils s'en fichent, que c'est pareil, les Américains c'est méchant, de toute façon qu'ils vont juger sur pièce, mais ils ont dit quand même que Poutine voulait rencontrer Trump. On sait aussi de façon quand même répétée que Trump a une sorte de sympathie pour les leaders dictatoriaux. C'est certainement plus positif pour le Kremlin d'avoir Trump que Kamala Harris.
Le deuxième mandat de Donald Trump est mieux préparé que le premier, selon Gaël Lagadec, qui estime que le nouveau président revient plus fort à la Maison-Blanche. Et ce matin, il est aussi revenu sur le rôle des géants de la tech auprès du 47e président des États-Unis.
Les géants de la tech se sont tous ralliés à Trump, alors qu'ils le combattaient précédemment. Zuckerberg l'avait enlevé de Facebook, il avait été enlevé de Twitter. Maintenant, tout le monde vient faire allégeance, finance sa cérémonie d'investiture. Elon Musk a mis 250 millions de dollars de sa poche dans la campagne de Trump. Donc ces gens qui ont un pouvoir hors normes, qui sont les plus riches au monde, sont maintenant extrêmement proches du dirigeant le plus puissant au monde. Et on voit déjà que Zuckerberg, par exemple, il a changé les règles de modération, que maintenant on peut associer LGBT et maladie mentale sur Facebook. Ça va dans le sens de ce qu'est devenu le parti républicain sous Trump, un parti largement libertarien qui n'a plus rien à voir avec le parti républicain libéral historique.
Elon Musk va même s'engager aux côtés de Donald Trump puisqu'il sera chargé de réformer l'administration fédérale avec pour objectif de faire au moins 1000 milliards de dollars d'économies.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu et voici notre question du jour. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est-il selon vous une bonne chose ? Si vous considérez que c'est une bonne chose, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. En métropole, les temps sont durs pour la France insoumise et ses positions radicales. Jean-Luc Mélenchon ne décolère pas depuis que les socialistes ont décidé majoritairement de ne pas voter la motion de censure déposée après la déclaration de politique générale du Premier ministre. Nous nous sentons trahis, meurtris. Le Parti socialiste n'est plus un partenaire, écrit Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Dans le même temps, le candidat LFI dans les législatives partielles dans l'Isère a été sèchement battu par une candidate macroniste, Camille Gaillard-Minier. Lys Loufoque, le candidat de la France insoumise, n'a obtenu qu'un peu plus de 35% des suffrages contre plus de 64% à sa rivale macroniste, qui est donc devenue nouvelle députée de la première circonscription de l'Isère. Au chapitre des faits divers dans le Gard, l'enquête avance sur l'agression d'une femme de 44 ans à Vergès. Elle faisait son jogging il y a une semaine lorsqu'elle a été poignardée à plusieurs reprises par un homme qui a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Nina Pavant pour Europe 1.
Il avait prémédité son geste. Cet homme de 25 ans, casier judiciaire vierge, mais connu pour troubles psychiatriques, venait de sortir d'un séjour en soins. Samedi dernier, il sort de chez lui avec un couteau et l'intention d'agresser, comme explique le procureur adjoint Frédéric Cochet.
Confronté à des éléments matériels, il finissait par reconnaître les faits et expliquer s'être muni d'un couteau dans l'objectif d'agresser quelqu'un. L'examen médical de la victime faisait état de 6 plaies, 3 plaies au niveau des cervicales, 1 plaie thoracique et 2 plaies au niveau de l'épaule gauche.
Les enquêteurs ont réussi à l'identifier grâce à des témoignages, mais aussi à des images de vidéosurveillance et l'utilisation de la reconnaissance faciale. Ils ont retrouvé à son domicile des vêtements maculés de sang et le couteau qui a servi à agresser la victime. La victime, cette femme de 44 ans, toujours hospitalisée, mais dans un état stable, qui a reçu 30 jours d'ITT. L'homme de 25 ans est désormais placé sous contrôle judiciaire pour tentative d'assassinat. Il encourt donc la perpétuité.
Il est 11h48.